Cours de philosophie du vivant par le Père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jaudard, le 29 avril 1993.
Excusez le retard. C'est pas comme quand il y a des pères qui viennent. Je les reçois en premier lieu. Vous, vous êtes tout le temps là, là. Les sensations et les passions. Il y a toute notre vie de l'imagination. Parce que les sensations externes ne sont pas immédiatement reliées avec nos passions. C'est très curieux, ça. Et ce serait du reste très important à le souligner au plan éducation des passions. On le sait bien, du reste, à titre d'expérience, on a tous l'expérience de nos passions, j'espère. Nous sommes tous des êtres très passionnés. Hein. Les uns le concupiscible, les autres l'irascible, à droite l'irascible, à gauche le concupiscible. Pas, vous voyez ce que... Ordinairement, c'est comme ça. On est tous passionnés. On a tous l'expérience des passions. Heureusement, nous ne serions pas des êtres passionnés, nous ne serions pas ici. Pour tous, aussi bien le fond de la salle que le début. Et les passions sont quelque chose de difficile. À gérer d'un patrimoine qui n'est pas commode à gérer. Il faut comprendre qu'entre les sensations et les passions, voyez, autrement dit, le passage de la vie végétative aux passions implique les sens externes, l'imagination, ensuite la vie affective, les degrés de connaissance, les degrés de vie se prennent du côté de la connaissance et pas du côté affectif. Le côté affectif est toujours glissant, toujours, parce qu'il regarde le sujet. L'analyse se prend beaucoup plus du côté connaissance. C'est pour ça qu'Aristote, en étudiant le point de vue de la vie, sa philosophie de la vie, au fond, elle apprend du côté de la connaissance. Et que le philosophe qui étudie la philosophie du vivant commence la vie végétative avec l'instinct. Et vous avez un instinct, on n'a pas d'instinct de croître, je ne crois pas. Il y a l'instinct de nourriture, il y a l'instinct au point de vue de la procréation, l'instinct sexuel, il y a les deux. Mais pas d'instinct de grandir, je crois pas. Quand on est arrivé au sommet de sa croissance, c'est terminé. C'est curieux du reste, mais il y a la croissance. Mais la croissance est tellement liée à la nourriture. Il n'y a qu'un seul instinct, c'est l'instinct de la nourriture, boire et manger. Et on passe à la vie sensible par le point de vue des sensations. Et ce n'est pas les sensations qui sont immédiatement reliées aux passions. Mais entre deux, il y a l'imaginaire. Alors, avant de voir les passions, rappelons rapidement ce que sont les sensations comme connaissance particulière et l'imaginaire. L'imaginaire, c'est une connaissance seconde, toujours reliée aux sensations. Et c'est la première intériorité, qui est une très drôle intériorité des passions, puisque c'est plutôt les passions qui nous mènent à l'extériorité et à la diversion. Mais c'est quand même intérieur. Nous portons notre imaginaire en nous et nous pouvons, quand nous voulons, avoir un petit cinéma devant nous. Et il y a des personnes qui entretiennent ce petit cinéma. La méditation peut se changer en cinéma. Et quelquefois, hélas, même l'oraison. Alors c'est très important de saisir, d'une part, les sensations, l'imagination et les passions. Oui, voilà, ces trois aspects successifs pour bien saisir ce qu'est la vie animale. La vie sensible. On peut très bien dire la vie animale. Alors, la première remarque qu'il faut faire, c'est que la vie sensible, animale en nous, elle est essentiellement diverse, multiple. Il n'y a pas d'unité. Il n'y a pas de finalité. La vie sensible est une vie intermédiaire. Intermédiaire entre la vie végétative et la vie intellectuelle. Elle n'a pas de finalité. Donc, elle est la source de toute anarchie. Pas nos sens, mais notre imaginaire. Vous rêvez d'être un révolutionnaire. Qu'est-ce qu'il n'a pas rêvé dans sa vie d'être un révolutionnaire ? Un très bon révolutionnaire, quelquefois, ça. Celui qui trouve que vraiment ça ne va pas. On va tout reprendre. Révolutionnaire au niveau de la pensée, au niveau de politique, au niveau affectif, au niveau de tout. On dit que Saint Thomas est un révolutionnaire au point de vue de la pensée. Ça se dit, le père Chenu aimait beaucoup dire ça. Et c'est un peu vrai. Il n'y paraissait uniquement dans la tradition. Il a voulu tout reprendre. Et quand là, l'imagination joue, pas pour Thomas d'Aquin, c'est pas un révolutionnaire d'imaginaire, mais on comprend très bien que cette vie sensible n'ayant pas de finalité peut elle-même essayer de revenir à quelque chose qui est passé, qu'on a oublié et qu'on est en train de déterrer. Alors, cette vie sensible implique les cinq sens. Au niveau analyse philosophique, il n'y a que cinq sens. Au niveau psychologique, de temps en temps, on dit qu'il y en a six. Parce qu'il y a le toucher interne et le toucher externe. Alors, on peut dire, mais en réalité, c'est le toucher. Vous avez mal à l'estomac. C'est un toucher interne. Ouais, normalement, on ne s'en occupe pas de l'estomac. Ne vous occupez pas de votre digestion. Et si vous êtes malade, mal au cœur, on dit mal au cœur en réalité. Alors vous commencez à comprendre ce toucher interne qui n'est pas le toucher externe. Le sens le plus fondamental, c'est le toucher. Et le toucher nous met en présence de la réalité externe, connaissance sensible. Le toucher est lié à la vie de la Mais c'est autre chose que la vie végétative, puisque c'est la connaissance du chaud et du froid, en premier lieu. Et la vie, c'est le chaud et le froid. Le vivant a une certaine chaleur. Et le mort, il n'en a plus. Le signe de la mort premier, c'est tout de suite. Il est froid. Alors qu'un vivant est toujours chaud. Et tant qu'il est chaud, vous dites, il est vivant. Le toucher, c'est la chaleur, vous voyez, c'est lié à la vie. Notre toucher est le toucher d'un vivant. Et il est fait pour le vivant. Et c'est pour ça que le toucher est un sens qui regarde tout le corps. Mais évidemment, le toucher est plus affiné au bout de nos doigts, de notre main, que à notre coude. Vous ne savez pas du coude pour toucher. Est-ce que c'est chaud ou est-ce que c'est froid? Mettez votre petit doigt dedans. La casserole. Faites ça instinctivement, on ne vous a pas appris à faire ça. Vous l'avez vu faire, peut-être. Mais vous ne voyez jamais le singe faire ça. La main, le singe prend, oh oui, ça, il prend, surtout la nourriture. Il ne se sert pas de fourchette, donc il prend avec la main et avec force. Et c'est difficile de lui enlever la nourriture, il devient méchant. Et la nourriture, ça existe même chez les gens, chez les hommes. Hein. Il prend. Mais qu'est-ce qui touche? C'est très difficile de savoir. Parce que la main est faite pour prendre. Et le pied est fait pour rejeter. Déblayer le terrain. Déblayer le terrain, et c'est touché encore. Hein. C'est sûr. Le toucher est le sens le plus répandu en nous. Et qui se spécialise particulièrement chez l'homme. Ça, on remarque que l'homme libérer ses mains et que faire que ses mains gardent un toucher délicat. Alors que si vous marchiez toujours à quatre pattes, vous perdriez cette délicatesse. C'est pour ça qu'on voit que le toucher, la main, est lié à l'intelligence. Définira l'intelligence humaine, une intelligence qui se sert de la main. Et c'est juste, fondamentalement, notre connaissance du toucher est fondamentale. Alors, c'est le chaud, le froid, le rugueux, le lisse. Vous voyez, énumérer toutes les qualités que vous saisissez avec le toucher. Mais est-ce que le lisse, cette table bien lisse, est-ce que c'est propre au toucher? Est-ce que c'est un sensible propre ou un sensible commun? Le chaud et le froid, sûrement. Le lisse et le rugueux. Reste encore un sensible propre. Parce que l'œil ne voit pas le rugueux. Il le voit à travers le mouvement. Et le mouvement est un sens commun. Donc c'est le passage, en quelque sorte, d'un sensible propre au sensible commun. Parce que ce sera la première distinction qu'on fera tout de suite lorsqu'il s'agit des sensations. Distinguer les sensibles propres il est sensible comme nous. Le sensible propre, c'est le sensible qui est le propre d'un seul sens. Le sensible commun, c'est le bien commun des sens. Alors, on verra peut-être au terme les sensibles communs. Ici, il faut voir d'abord les sensibles propres. Les sensibles propres, vous les découvrez par l'analyse. Votre sens du toucher, c'est une connaissance. Vous voyez, quand vous visitez un musée et que vous voyez des statues, de belles statues, vous avez toujours envie de les toucher. C'est le sens du sculpteur, le toucher. Et alors, quand vous allez dans des musées extrêmement raffinés, vous touchez la statue et immédiatement, il y a une sirène. On a peur, vous la volez. Et on a interdit de toucher. Et en faisant ça, on empêche de connaître vraiment. Une statue a besoin d'être touchée, atteinte. Vous avez des statues qui sont très hautes, oui, mais ça, c'est autre chose. Vous ne faites que les regarder. Parce que la sculpture, c'est le sens de la matière et de la quantité. Mais le sens de la matière. Et le toucher nous donne le sens de la matière. Je crois qu'il n'y a pas de jugement d'existence sans le toucher. Il peut y avoir un jugement d'existence sans la vue, sans l'ouïe, mais c'est le toucher. Alors ça, c'est très curieux. La vieillesse, ordinairement, abîme la vue. Abîme l'ouïe. Et le toucher augmente. C'est très étonnant. Vous avez toujours touché les mains d'un vieillard, c'est beaucoup plus sensible. Ça redevient comme les mains d'un enfant. Et ce lien entre la main et l'intelligence est quelque chose de très important. Parce que ça donne le réalisme. Donc, le toucher est d'une part ordonné à l'intelligence d'une manière très particulière. Puisque sans le toucher, il n'y a pas de jugement d'existence au sens fort. Et le toucher est lié d'une façon très particulière à toute notre vie végétative. À notre corps. Et il y a dans le corps des points plus ou moins sensibles où on réagit davantage. Et notre corps n'est pas lié à la sensation, au toucher d'une façon uniforme. Le toucher est divers. Il y a une diversité dans le toucher. Et c'est là qu'on voit tout de suite le point de vue de la connaissance. Dans la connaissance du toucher, si vous l'analysez, vous dites le toucher est déterminé par tel sensible. Le froid, le chaud, c'est la première chose que vous touchez. Tout de suite. Donc il y a un sensible propre pour le toucher. magnétisme. Alors là, c'est un toucher très particulier. À distance, vous pouvez jeter des ondes nocives ou bonnes sur certains individus spécialement. Parce qu'il y a des gens qui sont très sensibles au magnétisme, des autres qui sont moins sensibles au magnétisme. Alors là, on est dans une zone très difficile où l'imaginaire peut jouer à fond. Et je ne sais pas, est-ce que ça fait partie de la quintessence d'Aristote ? Il y a un problème. Il faut quand même le voir, ce problème. Moi, je prends ici ce qui est plus sûr. Le toucher normalement implique le contact. Un contact qui implique une harmonie entre votre sens, votre organe du toucher et ce que vous touchez. Si vous touchez et d'une trop grande chaleur, vous ne sentez plus rien. Vous brûlez. Vous ne sentez plus rien. Si c'est trop froid, vous êtes congelé. Et vous ne sentiriez plus rien du tout. Mais une façon de vous séparer du monde, c'est de vous le mettre dans un congélateur. Vous savez bien que c'est le grand système de... Si vous êtes un génie, vous recevrez d'Amérique un contrat que vous signez ou que vous ne signez pas pour dire si jamais vous tombez d'une maladie incurable, on peut vous hiberner. J'ai vu ce contrat, pas, il m'a pas été envoyé à moi. C'était envoyé à quelqu'un que je connais bien. Et on lui a dit, si vous tombez d'une maladie incurable, écrivez-nous tout de suite, on va vous hiberner pour attendre qu'on arrive à guérir cette maladie. Et on vous sortira de cet hibernage. Mais ça coûte assez cher. Alors pour les pauvres héritiers, c'est très embêtant. Parce que tout le patrimoine y passe. Vous voyez, c'est intéressant parce que ça voit qu'on peut hiberner quelqu'un. Je sais pas comment il ressort aussi. La garantie, c'est ça, du contrat qu'on fait. Mais c'est sûr qu'en dessous d'un certain degré de froid, tout s'arrête. Mais comme le toucher est lié à une harmonie de chaleur, c'est très curieux, ça. Et ça, c'est vraiment le sens du toucher. Le sens du toucher fait que je suis bien dans certains climats, je suis moins bien dans d'autres climats. On parle de climat tempéré, et on parle d'un climat équatorial. Et alors là, c'est aussi l'humide et le sec. Et l'humide et le sec, c'est vrai, c'est le toucher. Alors, vous voyez, comme c'est très difficile de préciser ce que c'est que la connaissance du toucher, étant donné qu'à la fois très étendue sur tout notre corps, qu'il y a des points du corps qui sont particulièrement sensibles, et qu'en dessous d'une certaine harmonie, il n'y a plus rien. C'est par le toucher que vous êtes incorporé dans un milieu. Et on dit bien incorporé dans un milieu. C'est le corps qui se trouve à l'aise dans ce milieu. Et ça, c'est le toucher. C'est pas la vue. C'est vraiment le toucher. C'est pour ça que c'est lié à la vie. Le toucher est lié à la vie. le toucher est donc le sens le plus fondamental, le plus indéterminé. Celui qui, de fait, va être source de l'aspect le plus étendu de la connaissance, le plus générique. Et donc, il est lié à la quantité. La quantité n'est pas touchée, hein. N'avez jamais touché la quantité. C'est une abstraction, la quantité. C'est pour les mathématiciens. Ils ne les touchent pas. Alors, c'est très intéressant de voir que la quantité, c'est ce qui conditionne le toucher. Et ce n'est pas le sensible propre. Donc, vous trouvez tout de suite dans l'analyse du toucher le TST. Qu'est-ce que c'est que le toucher? Et le TST, vous répondez par l'objet. Ce qui spécifie le toucher. Vous voyez le vivant qui touche. Et vous voyez le conditionnement du toucher, qui est la quantité. Autre chose est de toucher une grande quantité. Autre chose est de toucher un point. Et rien n'a changé comme spécification. C'est la même chaleur. Mais c'est pas la même chose de toucher une pointe et de toucher une grande quantité lisse. Autre chose est de toucher une meule qui tourne à toute vitesse, quelque chose qui est en repos. Et ça, on regarde le conditionnement, parce que vous ne touchez pas le mouvement. Ce sont des distinctions qui sont capitales à faire au plan philosophique et qu'on ne fait pas quand vous analysez au point de vue psychologique. Parce qu'au point de vue psychologique, vous ne pouvez pas distinguer le TST et le pose. Vous décrivez, c'est tout. On fait des descriptions extrêmement intéressantes. Un toucher très développé pour les aveugles. Chez les vieillards. Alors il faudrait voir le lien du toucher, puisque c'est lié à la quantité, avec le point de vue de l'angoisse. Et ça, c'est un problème psychologique, imaginaire, mais je le signale maintenant. Parce que le toucher est sûrement la source principale de l'imaginaire. Du conditionnement de mon toucher. Et puis c'est le sens fondamental qui de fait va me conduire à la connaissance, va conduire la connaissance intellectuelle au genre. Le genre se prend du côté de la matière et du côté de la quantité. Alors, il y a une connaissance générique qui est très liée au toucher. Le toucher par le point de vue de la quantité, pas directement par la spécification, mais par le conditionnement, me donne le sens de l'enveloppement, donc du milieu. Et c'est net, hein. Vous voyez, on est trop serré. Qu'est-ce qui dit qu'on est trop serré? Dans le métro à certaines heures, on est trop serré. On est comme des sardines. C'est le toucher. Et qui donne ce sens-là. On a besoin un petit peu de respirer. Alors, le toucher va s'étendre à la respiration. Le sens du goût. La respiration est liée au toucher. Et ce n'est plus le même sens, parce que c'est un toucher intérieur, la respiration. Et la respiration respiration. Vous voyez, quand vous êtes trop serré dans un endroit, ça conduit à ce fait qu'on était comme étouffé. Être étouffé, c'est la respiration. C'est pour cela que beaucoup de psychologues lient l'angoisse à la respiration. Il est lié au toucher et à la respiration. Et c'est vrai que vous commencez à sentir l'angoisse. Faites des exercices de respiration. Et vous évitez d'entrer dans l'angoisse. Tant que vous pouvez en faire. C'est le conseil que me donnait un vieux médecin de famille en me disant, quand vous voyez des étudiants, des frères qui commencent un tout petit peu à être angoissés, dites-leur en se levant de faire de la respiration en ouvrant tout grand la fenêtre. Ils retrouveront un élan. Celui qui respire peu est vite angoissé. Vous voyez, c'est le sens du toucher intérieur de la respiration. La respiration, c'est un toucher intérieur. Vous respirez un air chaud, vous respirez un air froid. C'est pas la même chose que de toucher. Alors, voyez, c'est curieux. Connaissance interne, connaissance externe, qui est liée aux sensations. Et ça se fait très vite, puisque ça se fait au niveau du toucher et au niveau de la respiration. Au niveau du toucher et de la respiration, vous avez ce sens de l'extériorité, de la quantité qui est extérieure à vous. Le toucher vous donne le sens de ceci est. Jugement d'existence, ceci est, et c'est extérieur. Et la respiration intérieure, je suis, je respire, c'est le vivant. La première respiration, c'est le vivant, et le vivant respire. Alors, de là, on passe au goût.